RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Prenez la parole avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. C'est tous les jours de 9h à midi. Vous êtes avec nous, avec aujourd'hui Sam Zira, le créateur de contenu. Il est des nôtres aujourd'hui, Sam. Nous sommes avec Emmanuel Devilliers, le chef d'entreprise. Et puis Barbara Lefebvre qui nous accompagne, l'enseignante en histoire, géographie. Et on va s'intéresser maintenant à quelque chose de nouveau. Les réseaux sociaux qui deviennent le réseau d'information numéro un. Ensuite, on parlera de la fête de la musique, 21 juin. C'est la France Insoumise qui va prendre toute la place de la République à Paris pour faire des concerts et pour faire un grand meeting. Et puis la ligne de la galère, la ligne SNCF, 289 passagers, Paris-Clermont, 8 heures pour faire le trajet. Problème, c'est vraiment la ligne de l'enfer. Et alors, on a la canicule qui arrive de nouveau dans le pays. On sait ce que ça peut provoquer au niveau des trafics, des trains, des embêtements. Bref, voilà les trois sujets de cette deuxième heure. Vous allez pouvoir commenter avec nous au 32-16. On va commencer par s'intéresser aux réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on ferait sans les réseaux sociaux? On serait un peu perdu comme des oiseaux.
Alors, personne n'est capable de dire ce que c'est. Mais on trouvait ça assez marrant.
C'est plutôt sympa.
Ouais, les réseaux sociaux, c'est une enquête au niveau mondial qui montre qu'aujourd'hui, on met de côté les médias traditionnels pour s'informer sur Facebook, YouTube et TikTok.
Oui, 54% des gens interrogés dans cette enquête effectuée au niveau mondial disent avoir utilisé les réseaux sociaux et les plateformes vidéo pour s'informer dans la semaine précédant ce sondage. C'est seulement 52% pour la télé, donc les réseaux sociaux passent devant. 51% pour les sites et applications de journaux et seulement 21% pour la radio. C'est donc la grande bascule de l'information qui se confirme. Le public au niveau mondial s'informe désormais davantage sur Facebook, YouTube ou TikTok que via les médias traditionnels. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce rapport de 180 pages, donc il est assez intéressant à découvrir, revient aussi sur des tendances de fond qui sont en train vraiment de s'installer. Par exemple, c'est la montée en puissance des formats vidéo, l'influence croissante aussi des créateurs de contenu et je regarde Sam, dédié à l'info comme Hugo Décrypte en France par exemple qui fonctionne très bien. Et à côté, il y a une perte de confiance dans les médias traditionnels. Ça va de pair, c'est-à-dire qu'on fait de moins en moins confiance dans les médias traditionnels et donc on se tourne vers autre chose, avec bien sûr de ces nouvelles générations. Alors on imagine que ces nouvelles générations, elles reviendront pas sur ces habitudes prises. Alors est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou au contraire, il faut s'adapter? Peut-être que les médias traditionnels doivent aussi réfléchir à faire leur propre révolution et se demander pourquoi aujourd'hui il y a cette perte de confiance.
Sam, 32-16 pour réagir avec les GG.
Ouais, non, mais je pense que c'est un sujet hyper intéressant dans le sens où la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les médias traditionnels ont perdu de plus en plus la confiance de leur public, la confiance des téléspectateurs. Les réseaux sociaux s'y prennent de l'ampleur, c'est pas parce que ce sont les meilleurs, c'est parce qu'ils abordent des sujets qui ont été trop longtemps délaissés par les plateaux de télévision. Les plateaux de télévision, et je pense que c'est ça aussi qui a retiré une forme de confiance chez les téléspectateurs, c'est mon analyse, sont pour la plupart, les plus grands médias sont gérés aujourd'hui par des milliardaires et ils ont perdu de cette façon-là. C'est comme ça que je l'explique, la confiance des téléspectateurs. Parce qu'aujourd'hui, on se dit quoi? On se dit, est-ce que l'information que j'ai, elle est complètement... Elle est complètement décorrélée d'intérêt que peut avoir potentiellement un média ou une chaîne. Mmh. Et sur les réseaux sociaux, on a envie d'entendre parler des sujets qui nous préoccupent.
Oui, on a envie d'entendre quelque chose qui.
On a envie d'une parole vraie.
On a envie d'une parole simple. Qui nous correspond plus qu'autre chose, quoi.
Si oui, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que je pense que, oui, sans doute, il y a une fausse. Prétendue objectivité, neutralité dans certains grands médias qui se prétendent neutres, mais en fait on sent bien que c'est pour faire fonctionner le système et que donc les réseaux sociaux proposeraient une information
un peu
anti-système, non pas marginale, mais qui viendrait éclairer des pans de l'actualité que n'éclaireraient pas les médias traditionnels. pareil. Mais néanmoins, je ne crois pas du tout qu'il y ait de la neutralité du côté des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de neutralité dans les réseaux sociaux qu'il n'y en a dans les plateformes.
La neutralité n'existe pas.
Voilà,
même chez n'importe quel journaliste, la neutralité n'existe pas.
Voilà, donc la question aujourd'hui, c'est le public. C'est-à-dire que moi, un jeune public qui est capable de comprendre que ce qu'il voit sur les réseaux sociaux n'est pas neutre, que c'est une opinion et qu'il doit se faire sa propre opinion en allant regarder d'autres influenceurs oui. ou d'autres
tout
médias d'information.
Oui. Tout dépend des créateurs.
D'autres créateurs de contenu. Oui. Mais moi, je crains, pour le voir avec les élèves et pour le voir avec les jeunes que je côtoie, c'est que, à cause des bulles algorithmiques, ils n'écoutent qu'un type d'informations sur les réseaux sociaux et ils sont privés du pluralisme.
Parce qu'il faut apprendre à différencier l'information de l'opinion. Et ça, voilà. Ça devrait être fait à l'école. Ça devrait être une matière.
On est bien d'accord. Donc là-dessus, Sam et moi, nous sommes complémentaires. Je pense que c'est à l'école, aujourd'hui, de transmettre quelque chose qui est essentiel, qui est la capacité, aujourd'hui, à aller chercher l'information, à traiter l'information et à penser par soi-même. Et là, les réseaux sociaux peuvent être intéressants. En revanche, des élèves qui n'ont pas les codes non plus de lecture et de compréhension, qui n'ont pas la compréhension du monde, qui n'ont pas de connaissances littéraires, qui prennent un mot pour un autre, eux, ce sont demain des proies oui. pour des influenceurs qui peuvent être très dangereux sur les réseaux sociaux.
Alors,
donc, il faut qu'il y ait un travail, je pense, tout à fait en adéquation et concomitant entre à la fois les créateurs de contenu et les enseignants, parce que de toute façon, les enseignants, on ne pourra pas faire autrement oui. que d'aider nos élèves puis, à avoir ce libre arbitre.
Les enseignants sont de gauche aussi.
Crois-moi, ça a bien changé.
Avec la gauche et la droite.
Ça a bien changé, Emmanuel, crois-moi.
Ce qui est plus grave psychologiquement, c'est que ça enferme les jeunes dans les écrans. C'est très bon pour les lunetiers au passage, mais ça modèle le psychisme. C'est très chronophage, tu n'ignores pas. C'est-à-dire que les jeunes passent un temps excessif, sans doute, sur tous ces réseaux sociaux.
Et les adultes aussi, la plupart. D'ailleurs, il y a une étude qui disait que c'était les adultes qui passaient plus de temps, et on en parlait il y a 15 jours. C'est les adultes, au final, qu'il faut prendre en compte et qu'il faut réguler, parce que c'est eux qui disent à leurs enfants ne passe pas des heures sur les réseaux sociaux, mais qui ont la tête collée sur le téléphone
et qui
donnent des leçons qu'ils n'appliquent pas à eux-mêmes.
N'en déplaise à la nature des actionnaires, les chaînes infos sont quand même plus objectives et plus efficaces que d'aller glaner sur des réseaux sociaux.
Elles sélectionnent beaucoup. Les chaînes info, je trouve, certaines, hein, pas toutes, fort heureusement, sélectionnent beaucoup leurs sujets en fonction des intérêts.
Par exemple, Sam, quels sont les sujets?
Les créateurs de contenu aussi sélectionnent leur contenu.
Non, mais justement,
Hugo Décrypte, il a une façon de faire, excuse-moi, mais moi j'ai déjà regardé quelques vidéos d'Hugo Décrypte sur des sujets que je connais bien. Il y a un biais idéologique.
Il y a un biais pour tout le monde.
Non, mais sauf que lui, il se fait passer pour un mec neutre. Et je suis désolé, Hugo Décrypte, il n'est pas neutre du tout.
Mais voilà. Sam, comme n'importe quel journaliste, on l'a dit, comme n'importe quel humain. Aucun humain n'est neutre.
La neutralité, ça n'existe pas. C'est une matière humaine.
Pas neutre alors.
Non, mais en revanche, on peut revendiquer l'honnêteté intellectuelle. Oui, l'état intellectuel est de raconter de raconter les faits et pas
tu veux un exemple, c'est ça?
Oui, des exemples, des sujets qui sont traités sur ces réseaux sociaux par rapport aux médias traditionnels.
Ce qui était traité sur les réseaux sociaux, la situation géopolitique entre Israël et la Palestine. Les premiers mois, on n'entendait pas parler de Gaza. Il y avait une omerta sur les chaînes traditionnelles. C'était presque comme le masque à l'époque du Covid. Eh bien, bien sûr. Alors, c'était presque comme le masque à l'époque du Covid.
On n'entendait parler que de ça.
Non,
matin, midi,
pas sur les médias. Ah bah oui, mais que dans un seul sens.
Ah bon.
Que dans un seul sens.
Trop pro-Israël, en fait.
Exactement. On n'avait pas, je suis désolé, en face de nous, les images pour permettre aux personnes qui étaient derrière leur écran de se rendre compte véritablement de la situation qui se passait véritablement aussi à Gaza.
Et ça, pas d'image,
ça, c'est une parole qu'on a pu retrouver sur les réseaux sociaux. Et là, les Françaises et les Français se sont rendus compte, je crois, ça a été comme un déclic, en se disant, mais en fait, sur les réseaux, j'entends parler de sujets, je vois des images qui ne sont pas traitées dans les médias traditionnels. Et ça a renforcé la confiance aussi des
réseaux sociaux. Les images dont on s'est rendu compte pour beaucoup d'entre elles,
qu'elles étaient complètement manipulées. Mais ne prenez pas des cas particuliers.
Au-delà de ce sujet...
Le coup de la famine à Gaza, on s'est rendu compte que ces photos étaient manipulées
pour l'histoire des enfants.
Non, mais au-delà de ce sujet, justement, quelle est la garantie d'une manière générale que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux est sourcé, vérifié, etc. Parce que dans une rédaction traditionnelle, il y a quand même une déontologie méthodologie.
Les chefs d'édition.
Un chef d'édition, on vérifie. Alors parfois, il peut y avoir des erreurs.
Et une responsabilité éditoriale.
Voilà, des sources. C'est-à-dire qu'on donne une info, mais elle a été sourcée deux fois. Ça a été vérifié par un chef, etc.
En tant que créateur de contenu, je vais vous parler de mon cas. Parce que je suis présent. Je l'ai. Quand je suis attaqué, par exemple, en diffamation dans un tribunal, on me juge comme un organisme de presse. On me juge comme le directeur de la publication. On se dit pas est-ce qu'il a fait des études de journalisme ou est-ce qu'il n'a pas fait des études de journalisme.
Et t'as été attaqué déjà ?
Mais bien évidemment, oui. Je suis un organisme de presse et j'ai une vidéo inédite par jour. Après, ça dépend aussi de la déontologie de chacun. Moi, je sais que j'ai une déontologie où même si je n'ai pas fait d'école de journalisme, je fais tout pour me rapprocher au maximum des codes. Et je sais que je suis jugé avec cette sévérité-là dans un tribunal.
Mais toi, oui.
Et croyez-moi, même quand je suis relaxé, d'ailleurs, je suis une blanche colombe. Je n'ai jamais été condamné. Ça m'a coûté des milliers d'euros d'avocat. Je suis jamais rentré dans mes frais.
Toi, Sam, t'as jamais été condamné, mais est-ce que on a cette garantie, surtout les créateurs
Non, on ne l'a pas. Et c'est pour ça qu'il faut développer, c'est ce que disait Barbara, l'esprit critique. Et ça, c'est à l'école. Et au bout d'un moment, on en revient. Je suis désolé, mais encore à l'organisme de l'État, il faut impérativement donner des cours dès la primaire, dès le collège, un petit peu comme pour les relations intimes, le fait de faire attention à ce qu'on ne nous touche pas, etc., à préserver son corps, parce que on apprend aux jeunes à traverser la rue, au passage piéton, on leur dit il faut attendre que le petit bonhomme il soit vert, faut regarder à droite, faut regarder à gauche, faut pas sortir son téléphone parce que tu peux te faire écraser par une voiture ou un vélo. Oui, on leur apprend pas à traverser les réseaux.
Dès les années 70, les proches,
c'est pas tout ça.
Et Barbu pour certains,
nous obligeait à
soi-disant la liberté de conscience, l'esprit critique, etc. Et on se rend compte depuis ces 10 dernières années, et les auditeurs le savent, que quand il s'agit du Covid, quand il faut se faire vacciner comme des moutons de panurge, quand il faut dire que l'Ukraine n'a aucune responsabilité dans la guerre avec la Russie, etc. Eh bien, il y a un mouvement de masse et il y a aucun esprit critique et jamais la liberté de penser n'a été aussi faible.
Mais je suis d'accord avec toi. Mais mouvement de masse, pourquoi ? Et pourquoi la liberté de penser et d'expression, elle a jamais été aussi faible ? Parce que même sur les réseaux sociaux, croyez-moi, on a le problème avec les géants, avec YouTube, même si YouTube, je trouve, est quand même le plus safe, avec Instagram, avec TikTok. C'est-à-dire il y a une véritable censure qui est appliquée. Il y a des mots qu'on est obligé de silencier. Je sais pas si vous vous rendez compte. Pédocriminel, par exemple. Notre vidéo peut sauter parce qu'on parle de pédocriminalité. Viol. Le mot viol, on est obligé de le silencier.
Oui, alors
croyez-moi,
c'est marrant,
par rapport à la télévision, on a beaucoup moins de latence par rapport à ça.
Je me suis aperçu de ça il y a pas longtemps. Tu ne peux pas écrire viol en toutes lettres, tu es obligé d'enlever le i et de mettre une espèce d'astérisque.
Exactement.
Ou alors tu mets le logo, ça ne correspond pas
sur
au
Facebook,
code.
Sur Facebook, on peut enlever ta vidéo ou ta photo parce qu'il y a un sein qui passe
Il est certain qu'il y a quelqu'un qui a atteint le niveau de Sam en termes d'audience, c'est forcément un journaliste qui s'ignore et un grand professionnel au passage.
La question de l'enseignement du libre arbitre et de la pensée par soi-même, ça ne passe pas forcément par apprendre à servir des réseaux sociaux. Tu peux apprendre le libre arbitre et la liberté de conscience et penser par soi-même en étudiant Victor Hugo, en étudiant Molière. C'est justement plutôt
en 2026.
En lisant. Non mais comment ?
Pas en 2026.
Si, parce que ça.
Il parle pas d'Instagram, Victor Hugo.
C'est pas ça. Ça t'éveille à la question de la pensée et aussi du temps que nécessite le temps de réfléchir à quelque chose, de se poser. L'immédiateté des réseaux sociaux. Ça peut être travaillé, bien sûr, mais en amont, il faut que les gamins soient capables aussi de se poser dans un temps de réflexion. Et les réseaux sociaux ne te permettent pas de
se
poser.
Mais là, il y a une urgence. Ah, oui. Il y a l'enjeu de 2027, les élections présidentielles.
On a Olivier.
Il faut apprendre aux jeunes, justement, à décortiquer, à savoir ce que c'est.
Ça va être la grande manip.
Une mésinformation.
Et tu as l'IA qui va arriver, qui ne va pas arranger les choses aussi. Ouais. Nous sommes avec Olivier du côté de Hayange, en Moselle, technicien audiovisuel. Bonjour, Olivier.
Salut les grandes gueules.
Bonjour, Olivier.
Je vais essayer d'être court. Deux choses. Bon, moi, je suis de la génération 72, la meilleure année. N'est-ce pas, Barbara ? Et en fait, moi, c'est vrai que quand on était gamin, on avait l'habitude de regarder la télé parce qu'il y avait que ça. Donc, on regardait souvent les JT le soir avec nos parents, etc. Et on a regardé ce réflexe-là. Moi, aujourd'hui, j'ai deux ados. Donc, j'ai une fille de 20 ans et un fils de 16 ans qui regardent plus du tout la télévision. Et alors, oui, ils s'informent sur les réseaux sociaux. Mais moi qui suis aussi un peu les réseaux, ce qui m'embête, c'est qu'il y a très, très peu de contradictions. Et des fois, il y a des affirmations dont on se dit « Wow, c'est une super idée, il a raison, etc. » Mais les jeunes n'ont pas le réflexe d'aller se renseigner sur la personne qui dit cette affirmation, qui peut souvent être d'un parti extrême ou autre. Moi, c'est ça qui me dérange. Alors, j'essaye d'apprendre ça à mes ados en disant « Mais regarde la source, essaie de te renseigner. Est-ce qu'il y a une contradiction quelque part? Et voilà, et qui parle? Et ça m'embête beaucoup. Parce que du coup, ils n'ont plus du tout de référence. Et franchement, ça devient vraiment dangereux parce qu'il y a des jeunes. Moi, je vois, j'ai encore le fils d'une amie hier qui est, bon, c'est pas grave, mais il a à fond et les filles, le pauvre, et il dit des affirmations qui sont complètement fausses, mais parce qu'il se base uniquement sur ce qu'il entend sur les réseaux. Et le problème, c'est que, et je pense que les médias traditionnels, justement, ils ont encore un devoir à ça. Je pense qu'il faut. C'est aussi à vous à critiquer les informations de ces politiques-là. Un dernier exemple, je prends l'exemple. Par exemple, de Bardella, par exemple. Monsieur Bardella, bon, je l'ai vu dans une émission, il avait perdu pied il y a quelques temps parce que il sortait de son discours classique. Mais je veux dire, personne va se renseigner sur qui sont ses conseillers, par exemple. Et lorsqu'on se renseigne un peu et qu'on creuse un peu, bah, des fois, ça fait peur. Et ces jeunes n'ont pas ce réflexe-là d'aller voir exactement qui dit quoi. Moi, c'est ça qui m'embête aujourd'hui. Et je pense que les médias traditionnels, il faut qu'ils se battent pour ça, justement. Et je pense que les réseaux, alors, attention.
Parce qu'ils cherchent uniquement un discours qui les conforte ou qui leur donne raison, qu'ils pensent, c'est ça?
Oui. Et moi, je suis déjà tombé sur des discours en disant, mais je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Et finalement, quand je vais chercher, parce que je connais pas bien cette personne à ce moment-là, quand je vais chercher un peu de quel bord il va, en fait, ils sont très, très malins. Parce que c'est un discours dirigé pour attirer du monde, mais derrière, c'est une catastrophe.
Alors, Olivier, vous insistiez sur ces exemples que vous avez autour de vous, et on a posé la question d'une manière générale. Est-ce qu'à votre avis, les réseaux sociaux vont avoir la peau des médias classiques? Aujourd'hui, on s'informe sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est inquiétant? On va voir ce que vous en dites. Non, pas du tout, ce n'est pas inquiétant, et vous dites ça à 55%.
Voilà, la bascule. Ça, 55, on disait 54% s'informe avant tout sur les réseaux sociaux, on y est.
Olivier nous évoquait la France Insoumise. Bien, dans un instant, on va l'évoquer, la France Insoumise, qui va faire un grand rassemblement le soir de la fête de la musique, place de la République à Paris. Alors, marche contre le racisme, concert, prise de parole. Donc, c'est un meeting ou c'est la fête de la musique? Finalement, la place de la République, c'est moi. C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon, 32-16 pour venir en... C'est une privatisation de la place de la République et de la fête de la musique par la France Insoumise. Et vous venez en discuter avec nous au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules. 1, 2, 3, 4.
C'est vous qui prenez la parole, vous êtes avec les GG, avec les Grandes Gueules en direct sur RMC, RMC Story. Nous sommes avec Barbara Lefebvre, avec Sam Zira, avec Emmanuel Devilliers. On va évoquer la France Insoumise et la manière dont elle va célébrer la fête de la musique.
La République, c'est moi!
Notre super-héros, c'est Jean-Luc Mélenchon.
C'est moi!
Partout!
Ouh, il rétablira la vraie démocratie.
Moi, je n'irai au buteur de gazelle. Mais trop par la monarchie présidentielle.
Les turpitudes, la casse dorée, c'est fini.
La finance doit rendre l'argent, ça finit par le tout.
Le reste John, assieds-toi et lis le programme.
Mélenchon,
toi, moi.
Pour créer une sixième république.
Ouais, c'est marrant, bravo, petite production, notre ami Thibaut de Villarté qui a réussi à trouver tous ces petits extraits. Alors, la fête de la musique façon France Insoumise, la place de la République, c'est moi, puisqu'ils vont investir la place de la République pour une marche contre le racisme, pour des rencontres politiques et pour des concerts.
Oui, ils ont lancé sur leur site La France Insoumise cette invitation. Rendez-vous ce dimanche 21 juin pour célébrer la fête de la musique avec des concerts anti-racistes et des prises de parole dès 18h, place de la République. Alors ça choque parce que c'est pas du tout l'état d'esprit qui avait amené à ceux qui ont créé la musique mettre en place cela. C'est en 1982. J'ai retrouvé d'ailleurs le nom de la personne. Alors on parle beaucoup de Jacques Lang qui était ministre de la Culture. C'est lui qui avait l'idée, mais celui qui avait mis en place vraiment la fête de la musique, il s'appelait Maurice Fleuret. C'était le directeur de la musique et de la danse. Et en 1982, et l'idée c'était justement la musique c'est gratuit, chaque citoyen peut descendre dans la rue, jouer de la musique, et c'était ça la fête de la musique, c'était pas des places privatisées pour des meetings politiques. Du coup, si la France Insoumise à la place de la République, on pourrait imaginer que Bardella privatise Nation, et que Horizon privatise, je sais pas, la place de la Concorde. C'est d'ailleurs ce qu'a tweeté François de Rugy, que je trouvais assez drôle. On pourrait imaginer un concert au Trocadéro par les Républicains. Républicains et pourquoi pas Mathieu Pigasse, place de la Bastille.
Oui, c'est pas très sain d'en arriver là parce que c'est contraire à l'esprit convivial et apolitique de la musique en particulier. Il y a aussi place de la République, toujours les énergumènes escaladeurs qui montent et après on se demande comment ils vont redescendre. Enfin, ça abîme le monument, ça coûte très cher
derrière.
De le remettre en état.
D'ailleurs, le maire de Paris Centre se plaint régulièrement des dégradations
cette statue, sur cette
machine. La machine Mélenchon est en marche. C'est très inquiétant parce que en fait, c'est un vieux bourricot à la base, mais avec tous les jeunes qui l'entourent et tout ce mouvement. Donc, en l'occurrence, en captant la fête de la musique, on oublie que ce candidat est has-been. Il apparaît au contraire à la mode. J'espère au passage qu'on aura encore Éric Coquerel dansant, parce que vraiment, il avait été excellent à Saint-Denis, derrière le maire Bali-Bagayoko.
Bali-Bagayoko danse mieux. Hein.
Le président de la commission des finances là, faisait des petits mouvements, c'était très spectaculaire.
Alors, Sam, est-ce que ça te choque que la place de la République soit privatisée à l'occasion de la fête de la musique par la France Insoumise ?
Alors, moi, j'ai juste envie de dire bravo. Moi, je dis bravo pour l'initiative. Et je m'en fous que ce soit la France Insoumise. Juste bravo pour l'initiative parce que contrairement à ce que vous dites, la musique est devenue un outil, un instrument politique aujourd'hui. Au travers de la musique, ça permet, c'est une arme, c'est devenu une arme, la musique aujourd'hui qui permet de dénoncer, qui permet d'accuser, qui permet de prendre conscience aussi de la société dans laquelle on vit et qui permet d'affirmer sa voix sur des sujets importants et qui permet de défendre et de mettre en avant les minorités qui ne le sont pas, malheureusement, dans notre pays. Et je trouve que cette initiative, elle est magnifique. Pourquoi ? Parce qu'on reproche toujours l'agressivité, on reproche toujours des paroles trop élevées, des verbes qui sont beaucoup trop hauts. Et pour une fois, se servir d'un événement comme la fête de la musique et comme de la musique qui est fédératrice pour rassembler et pour faire une marche antiraciste, on va leur dire, c'est pas bien de marcher contre le racisme. C'est comme si demain, on disait pour les homosexuels, c'est pas bien de faire la marche des fiertés.
Oui, mais c'est pas l'objet de la fête de la musique.
Parce qu'il ne faut pas marcher contre les discriminations faites aux homosexuels.
C'est pas l'objet de la fête de la musique, Sam.
Mais et alors, si la musique est devenue politique et si ça permet de rassembler.
Est-ce qu'il y aura des chants révolutionnaires ?
Marcher contre le racisme, mais pour le coup, on marche sur la tête.
Oui,
c'est super de marcher contre le racisme.
Ah oui, la récupération.
Surtout quand
politique.
La France insoumise marche contre le racisme. On a quand même envie, excuse-moi, de se pincer, parce que d'abord ils ont l'antiracisme sélectif, on le sait très bien, l'antisémitisme ne les dérange pas, et leur antiracisme est peut-être plutôt assez exclusif, et surtout ils sont eux-mêmes extrêmement racialistes, c'est-à-dire que eux pensent effectivement la France au regard de quelle couleur es-tu, de quelle religion es-tu, de quelle ethnie viens-tu. Donc je pense que pour le coup, chez les antifascistes LFI, c'est là qu'on trouve au contraire
tout comme le Rassemblement National qui sélectionne également aussi.
Non mais moi, c'est pas le Rassemblement National qui fait une manifestation à la place de la République, c'est les Insoumis. C'est par ailleurs les Insoumis et toute leur clique islamo-gauchiste qui a pris possession de la place de la République depuis plusieurs années, qui dégrade régulièrement le monument, la mairie de Paris, c'est-à-dire le contribuable parisien qui passe sa vie à renettoyer.
C'est pareil à la Technoparade.
Qui passe sa vie à la nettoyer parce qu'il la dégueulasse d'une façon absolument ignoble en écrivant toutes sortes d'horreurs dessus, dont la police tue, all cops are bastards. Donc moi j'espère que la police ne viendra pas encadrer leur manifestation avec leur chanteur Alain Noix que personne ne connaît. Alors elle doit être très politique ta musique de la LFI parce que je te mets au défi de trouver un chanteur qui a invite au moins des gens qu'on connaît. Ils n'arrivent même pas à inviter des chanteurs qu'on connaît, à part des mecs qui vont nous dire la police tue, la racaille des banlieues.
Réaction d'Ariel Veil, qui est le maire de Paris Centre, maire de gauche. Hein. Il dit non, il n'est pas possible de récupérer la fête de la musique à des fins politiques.
Voilà.
Et compte tenu des foules qui seront dans la rue pour danser et chanter, c'est un danger pour l'ordre public et la sécurité, alors que les forces de la préfecture de police seront mobilisées dans tout Paris.
Mais ils ont eu l'autorisation.
Oui, alors.
S'ils ont eu l'autorisation, qu'est-ce qu'ils. Alors le maire.
C'est
c'est pas le maire qui décide.
Oui, mais c'est pas le maire de Paris Centre qui donne, c'est le préfet de police.
Eh ben voilà,
c'est
le préfet de police a fait son petit cadeau à la LFI pour pas faire croire qu'ils sont ceci, ils sont cela. Voilà, donc on donne encore.
Sauf que ça va mobiliser beaucoup de policiers.
On donne aux racialistes la rue, on donne aux islamo-gauchistes la rue. Si, si, ce sont des racialistes. J'ai pas dit des racistes, j'ai dit des racialistes.
Faut arrêter avec ce terme, pardon, mais islamo-gauchistes, faut arrêter.
Ah bah oui, moi j'ai le droit de... Bah non, je
si, moi je trouve que c'est un petit peu compliqué quand même pour tous les musulmans certainement qui sont en train d'écouter.
Ah non, je confonds pas les islamistes et les musulmans justement.
Islamo, ça veut dire quoi?
Ah non, les islamo-gauchistes, on sait très bien qu'on parle des islamistes. Et justement, je ne comprends pas.
Ah bah non, c'est pas forcément. Moi, j'entends le mot islam.
Bah parce que tu comprends pas le nom.
Ah bah je comprends très bien. Si je comprends peut-être un peu trop bien, justement.
L'islamo-gauchisme, c'est l'islam politique. Et l'islam politique, c'est pas les musulmans précisément, c'est les islamistes. Moi, je fais pas de confusion entre les deux. Je sais très bien quelle est la différence. Et je sais très bien comment ces gens-là de la France insoumise, précisément, essaient d'instrumentaliser les musulmans pour le compte des islamistes, et je sais que les musulmans ne se laissent pas avoir par la LFI. Donc moi, au contraire, je ne fais pas de différence. Oh, maintenant, les marches antiracistes des antisémites, ça ne m'intéresse pas.
On retrouve un fidèle des GG, Pierre, qui est poissonnier du côté de la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine. Bonjour, Pierre.
Salut l'équipe.
Ça va, Pierre? Qu'est-ce que vous en dites, Pierre, alors de cette fête de la musique à la mode LFI, alors dites-moi.
C'est vraiment n'importe quoi. Ce jour-là, c'est la fête de la musique. C'est pas pour faire des meetings ou des manifs ou de la politique, ou quoi que ce soit. Et moi, ce que je comprends pas, c'est qu'ils prennent la place République. Ce jour-là, c'est la fête de la musique, et c'est pour tout le monde. Alors, je me répète, c'est la fête de la musique. S'ils veulent faire des meetings ou des manifs, ils ont qu'à choisir.
Mais là, on est en campagne présidentielle. Mais Pierre a parfaitement raison, la fête de la musique a été dénaturée. Avant, c'était un type qui descendait de son appartement avec son pipeau et deux, trois copains qui essayaient d'amuser les gars du coin. Maintenant, ça va être un vaste merdier.
Mais tout est dénaturé, même Noël est dénaturé, la fête des mères est dénaturée, donc faut pas sélectionner non plus ce qui est naturé ou ce qui l'est pas.
Mais en même temps, un politique joue du pipeau aussi.
Et Pierre, qu'est-ce qui empêche en fait de LFI de faire un grand happening, parce qu'il profite de la fête de la musique pour faire un happening? Rien ne l'interdit, Pierre.
Oui, je suis d'accord, mais ce jour-là, c'est quand même la fête de la musique. C'est les
ça n'empêchera pas des gens de descendre avec un trombone ou un pipeau, comme le disait Emmanuel de Villiers, et puis de massacrer Imagine de John Lennon.
Pierre. Mais ça fait un moment que la fête de la musique est un peu dénaturée. Et pour être honnête, bien avant que Jean-Luc Mélenchon décide campagne présidentielle de privatiser la place de la République. C'est devenu un gros machin, la fête de la musique, avec des sponsors, il y a des concerts, etc. C'est vrai qu'on a perdu l'état d'esprit qui a été instauré à l'époque par Jacques Lang. L'idée, c'était en gros, je me souviens à l'époque, c'est que les concerts payants, ça coûte cher, que les jeunes n'ont pas forcément l'argent, donc allons faire de la musique gratuitement dans la rue.
Au passage, c'est totalement anormal que la cour de l'Élysée soit l'objet de concerts et d'un merdier quasiment au sein même du cœur de l'État, qui est un sanctuaire.
Mais c'est fédérateur, la musique, pour une fois qu'on peut regrouper des personnes.
Alors justement, est-ce qu'on doit politiser quand c'est fédérateur?
Et pourquoi
pas? Parce que la politique, c'est pas fédérateur.
Et pourquoi pas? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que dans ce cas-là, un parti politique n'aurait pas le droit d'utiliser la musique.
Sam, imaginons que le RN ait décidé de dire cette fois-ci je suis place de la nation et on va faire un grand concert patriote. T'aurais été le premier à dire c'est gonflé, que l'Assemblée nationale récupère la fête de la musique.
S'ils ont envie d'utiliser la musique, s'ils ont envie d'écouter de la musique et s'ils ont envie d'écouter des musiques patriotes, à partir du moment où il n'y a pas de paroles délictuelles, j'y vois pas de problème.
Sûr qu'à place de la République, donc ça va être de la musique patriote.
C'est pas très fédérateur.
Vous pouvez compter sur eux.
C'est comme ça. Il y a des arrondissements qui font du rock.
Tu disais tout à l'heure, assez justement, que le foot ce soir devant la télé et dans les bars, il y a des gens de tous bords politiques qui vont communier, voir un match de foot en même temps. La fête de la musique, ça devait être ça. C'est-à-dire tout le monde descend dans la rue, quelle que soit sa classe sociale.
Je suis d'accord. J'ai pas juste un problème.
Les années 80-90 me manquent, où on pouvait aller à des concerts et où le chanteur ou la chanteuse ne venait pas te gonfler entre trois chansons pour te faire un espèce de discours politique, pour te dire qu'est-ce qu'il faut voter, qu'est-ce qu'il faut pas voter. C'est vraiment insupportable. Et je trouve que d'ailleurs...
Ça existait déjà un peu quand même. Tu avais des groupes comme Trust, comme Renault qui prenaient la parole.
Mais moi, j'allais voir Prince.
Jean Ferrat.
J'allais voir Prince. Entre trois chansons. Mais il faisait de la musique, tu vois. Et il venait pas te gonfler.
Oui, c'est
et
pas je vais un vous dire, français.
J'ai été voir Doja Cat. Eh ben, Doja Cat, oui, en fait, elle chante pendant 2h40, elle fait pas de pause entre ses chansons, et elle vient pas te raconter, ni qu'elle est anti-Trump ou pro-Trump, on s'en fout. Elle vient chanter. Et elle a un public qui est un public très bigarré, Doja Cat.
Mais il y a toujours eu des chanteurs engagés, puis des chanteurs plus populaires, plus rassembleurs.
Oui, mais voilà, on vient pour voir de la musique. Moi, je suis venue voir Doja Cat, je suis pas venue voir ce qu'elle pensait politiquement, je m'en tamponne, je suis venue voir sa musique parce que c'est une super showwoman et j'adore sa musique. Et il y avait une population tout à fait différente qui doit voter et tout,
La fête de la musique, place de la République, de ce qu'on appelle les insoumis, qui est un terme d'ailleurs invraisemblable, qui ne devrait même pas exister, c'est une fête de la musique de l'exclusion. Moi, je suis contre l'exclusion.
Pourquoi c'est une fête de musique?
Politique communautariste.
C'est curieux
de gens qui pensent la même chose.
Si moi je vais
à la fête de la musique là, dans leur machin, je vais avoir des soucis.
On connaît déjà les drapeaux.
Oui, mais
qui
tu
vont
vois, il y a la fête de l'humanité. Il y a la fête de l'humanité qui est organisée en septembre. Les choses sont claires. On sait que c'est organisé par le Parti communiste. Il y a des concerts aussi. Et d'ailleurs, il y a des gens qui vont au concert.
Johnny a été à la fête de l'humanité. Il votait pas communiste.
Il y a des concerts et puis des gens qui vont voir les concerts à la fête de l'humanité qui sont pas qui votent pas communiste.
On y a été nous avec les grandes gueules.
Parce que c'est pas cher. On avait fait une émission, une très bonne émission là-bas. Oui. Je me souviens. Voilà. Mais au moins les choses sont assez claires. On sait où on est. Là, c'est vrai que c'est un peu plus ambigu.
Ah non, mais là, t'inquiète. Quand tu vas arriver, tu vas voir les drapeaux de la LFI partout, plus tous les autres, évidemment, qui feront que tu reconnaîtras que tu es bien une manifeste.
Tu veux pas y aller, Emmanuel Villiers,
à
la fête de la France insoumise. Reportage en immersion pour les GG.
Ou alors j'y vais avec Adèle et ses maîtres sushi boxeurs.
On pourrait faire un bon reportage. Merci à Pierre d'avoir été dans les GG. Qu'est-ce que vous en pensez de cette fête de la musique à la mode LFI? Est-ce qu'il faut arrêter de tout politiser, notamment pendant la fête de la musique? Vous dites oui à 89%. Dans un instant, je vous emmène prendre le train, enfin. Oula, cette ligne de train.
Pas celui-là, surtout.
Cette ligne de train, tout le monde la connaît, c'est la ligne de la galère. C'est la fameuse ligne Paris-Clermont-Ferrand. Là, ils ont mis 8 heures pour faire le trajet. Et alors là, en plus, avec la canicule qui arrive, les problèmes ne font que commencer. Mais la ligne Paris-Clermont, c'est vraiment le train des oubliés. Et vous venez en discuter avec les GG au 32-16. Il est 11h25.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui le créateur de contenu Sam Zira qui est avec nous. Nous sommes avec Emmanuel Devilliers, le chef d'entreprise, et Barbara Lefebvre, l'enseignante en histoire, géographie. On va venir maintenant sur le train de l'enfer, le train de la galère, cette fichue ligne qu'on a déjà pris souvent avec les GG, Paris-Clermont-Ferrand.
Mesdames, Messieurs, notre train à destination de Clermont-Ferrand entrera en gare avec un retard estimé à 8 heures.
Combien ?
La SNCF vous prie de bien vouloir l'excuser pour ce léger décalage horaire.
Ce qu'on vous fait, c'est vraiment honteux.
De notre amie Charline en régie. Alors la SNCF va indemniser à hauteur de 200%. Comme disait l'autre, c'est la moindre des choses. C'est vraiment la ligne vétuste, la ligne des oubliés.
Oui, les passagers de ce train 5951 vont s'en souvenir quand même longtemps de ce voyage galère, puisqu'ils sont partis de la gare de Bercy à 6h57. Ils ont mis plus de 8 heures, il y a eu plus de 8 heures de retard accumulé. Alors en cause, il y a toujours une cause, c'est un problème mécanique. Occasionné la panne de la locomotive. Alors on sait que le matériel roulant est vieillissant sur cette ligne Paris-Clermont. Malheureusement, c'est pas la première fois qu'on parle de cette ligne un peu abandonnée, pas de TGV. Donc c'est le matériel s'est arrêté dans le Loiret, dans le secteur de Gien, et là les gens ont attendu. Alors bon, les agents SNCF ont distribué des bouteilles d'eau, les coffrets à repas. En fait, tout est organisé maintenant. C'est-à-dire que dans les trains, quand on sait qu'une galère peut arriver, il y a les bouteilles d'eau, les coffrets à repas. Les portes des wagons ont été ouvertes pour permettre une sortie et trouver de l'ombre. Une évacuation vers une salle des fêtes s'est déroulée en milieu de journée, avant de retourner au train quelques instants plus tard. Bref, tous ceux qui connaissent la ligne Paris-Clermont ne seront pas surpris.
C'est Pierre qui veut en discuter avec nous tout de suite. Il nous appelle de
Clermont-Ferrand. Bien sûr.
Bonjour Pierre.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Pas étonné, j'imagine, Pierre. Pas étonné.
Ah non, malheureusement, ça arrive assez souvent. Voilà. La ligne, je la prends assez régulièrement.
Et à chaque fois, ben, je dis pour que ça se passe bien, en fait. Et il y a toujours des petits soucis. Alors, des fois, c'est des sangliers qui se traversent sur la route, donc ça prend des heures. Des problèmes de caténaire, ben, là, c'est pas mes électriques, mais en fait, ça fait des années que c'est comme ça. Moi, quand je vais prendre l'avion à Paris, eh ben, en fait, je prends la voiture parce que moi, je suis sûr d'arriver et de pas louper mon avion derrière. Et c'est juste pas possible et ça fait des années que c'est comme ça, quoi.
Le Paris-Clermont en voiture, vous mettez combien de temps?
Je mets actuellement à peu près 4 heures.
4 heures, oui, c'est
avec
parce que. Voilà. Et en train, vous n'êtes pas sûr de mettre. Le trajet normal Paris-Clermont, il est de combien en train, normalement? Quand ça se passe bien.
Normalement, 3h30 à 4 heures.
Ouais, donc Kiev, c'est franchement, ça vaut pas le coup de prendre le risque, presque, quoi.
Et puis, c'est quasiment plus cher, parce qu'avec les péages, même avec le prix de l'essence actuellement, en fait, prendre la voiture, c'est quasiment moins cher que la SNCF.
Voilà. Ouais, c'est terrible.
Incroyable.
Ouais, ouais, mais aujourd'hui, le problème, c'est que la SNCF dit qu'ils ont engagé une réfection de la ligne, qu'ils ont engagé des centaines de millions d'euros.
Il y a un programme de modernisation de 168 millions d'euros, financé par l'État et la région Auvergne-Rhône-Alpes, afin donc de renforcer l'alimentation électrique pour accueillir des nouveaux trains, parce qu'il va y avoir des trains différents.
Parce que les rames, elles datent d'il y a 40 ans, les rames.
Voilà, exactement. Le temps de mettre tout en place.
Allez-y, Pierre, pardon.
Les nouveaux trains, ça fait depuis 2023 qu'ils les annoncent.
Oui, c'est ça le problème.
Et il y a rien qui bouge, il y a les politiques qui passent, les ministres de transport qui viennent, qui font des effets d'annonce, mais en fait, il y a aucun résultat.
Ah, le ministre des Transports, il est plutôt occupé à insulter Éric Ciotti en ce moment, donc il ne faut pas s'occuper de tout.
Non, mais c'est très compliqué. On parle de Clermont, c'est toujours pour ça. On passe un peu pour des pécores et malheureusement, en plus, la distribution des lignes depuis Clermont, alors que c'est quand même le centre de la France, ben, pour aller à l'ouest, on est obligé de passer par Paris. Ils veulent faire une ligne rapide qui passerait de Bordeaux à Lyon, mais en passant par Paris.
Ça sent le
sens. Ben, ouais. C'est une politique depuis des années qui ne fonctionne pas.
Ouais. Mais ça, merci Pierre d'avoir été avec nous. Clair. Merci d'avoir partagé votre témoignage.
Il y a eu quand même des choix politiques, des choix d'abandonner une partie des Français, en fait. Notamment ceux qui habitent dans le centre de la France.
Mais ça, c'est la métropolisation a permis de faire des choix et ces choix ça a été les lignes à grande vitesse pour desservir les grandes métropoles. À partir du moment où le centre de la France c'était des villes moyennes dont on a décidé que la désindustrialisation allait conduire à la disparition, on s'est dit abandonnons ces gens-là. Et donc voilà, c'est une politique volontaire, une politique de désertification et maintenant on pleure sur le lait renversé, on a des élus à la fois les élus et ceux qui se présentent au présidentiel, qui vont venir nous raconter, nous, on va remettre les trains, les TGV, etc. C'est pas vrai du tout. Voilà, cet abandon-là, il dure depuis 40 ans dans le silence général.
Mais globalement, faut quand même apporter du positif dans cette émission. Ah, on peut être fier de notre réseau ferroviaire français, qui est assez extraordinaire. Il y a qu'un truc qui cloche maintenant depuis un certain nombre d'années, ce sont les tarifs. Mais bon, quand on voit que avec la guerre au Moyen-Orient, même les émirs ont des emmerdes, donc après tout.
Non, je nuancerai ce que tu dis. Le réseau ferroviaire français, à la différence du réseau ferroviaire britannique ou allemand, quand ils se sont fait à peu près tous au même moment, au moment de la fin de la révolution industrielle, la France, il s'est fait sur le modèle jacobin. Tout vers Paris. Et à aucun moment, au XXe siècle, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, on a eu une volonté quand même d'essayer de revoir notre système de réseau ferroviaire pour arrêter de toujours tout faire passer par Paris.
Mais pourquoi n'y a-t-il pas eu de TGV sur cette
aujourd'hui,
ligne Paris-Clermont?
Pourtant, c'était Michelin, Clermont.
On a fait des choix politiques sur les tracés TGV. Il n'y a pas de TGV en Normandie. Par exemple, pourquoi il n'y a pas un Paris-Camp TGV?
Moi, qui habitais un petit peu à Rouen, je vous rappelle, il vaut mieux prendre sa voiture y compris au risque de se tamponner un bouchon sur la 13, parce que en voiture, tu sais que tu pars de Rouen, t'arrives à Paris à peu près 1h45, le train, tu crois que tu vas être à la gare Saint-Lazare en 1h10 si tu prends le direct, et puis tu te retrouves en rade, ça m'est arrivé des dizaines de fois, j'en avais ras-le-bol, c'est aussi pour ça que j'ai déménagé de Rouen, que je suis revenue sur la région parisienne.
C'est ce que certains disent, qui travaillent à la SNCF, je l'ai entendu plus d'une fois, en mode, si vous n'êtes pas content, arrêtez de vous plaindre en tant qu'usager et allez prendre votre voiture. Il se trouve que j'ai pas le permis, je l'ai jamais passé, donc je ne peux pas prendre la voiture. Mais moi, c'est Montpellier-Paris. Tu sais que je fais souvent parce que mes parents habitent à Montpellier, mais c'est quasiment systématique. Tout. Très honnêtement, allez, sur 10 voyages, j'en ai 8 qui sont arrivés en retard. J'en ai à chaque fois, il y a des
combien retards. Combien de retards en général?
Tu sais, ça varie. Hein. Souvent, il commence à ralentir un petit peu le train. Là, tu te dis, oh putain, dans quelle galère je suis foutu. Tout ce que tu as prévu après, c'est terminé. Et puis, ça se termine généralement, allez, avec une demi-heure, une heure et demie, parfois 3 heures, 4 heures de retard. C'est systématique. Et au-delà des retards, pardon, mais avec le prix qu'on paye nos billets, que ce soit la seconde ou la première classe, la saleté, on arrive sur notre siège, il y a des miettes, il y a des pellicules, il reste encore des trucs de sneakers de Mars, je donne 3 marques parce qu'on est à la télé, c'est vrai, j'avais oublié, de Skittles, c'est crade, c'est dégueulasse, il y a pas d'hygiène.
Et les toilettes?
Et les toilettes, il y a jamais le savon. Et quand on met le savon, il y a pas d'eau. Et comment on se nettoie? Comment on enlève le savon après? On est obligé d'aller au wagon-bar pour dire excusez-moi.
Service.
Où est-ce que je peux trouver de l'eau, s'il vous plaît? Et j'ai payé combien? 150 balles mon dîner. Ils se foutent de notre gueule. Ils se foutent clairement de notre gueule.
J'ai Christian Roy qui est avec nous, qui fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la ligne des oubliés. Bonjour Christian Roy.
Bonjour.
Vous êtes à la tête de ce collectif qui militait, qui pestait depuis des années. Donc les choses bougent quand même ou pas, ou vous vous inquiétez avec la canicule qui arrive là, dites-moi.
En Auvergne, les choses ne bougent pas du tout. Les trains ne circulent plus. Les voies entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne et Clermont-Ferrand et Tulle, les lignes sont arrêtées. Donc nous, on n'a pas de problème de retard de train puisqu'on n'a pas de train.
Ah, carrément, mais comment c'est motivé ça, Christian, alors dites-moi.
Vous ?
Comment est-ce que c'est motivé ? Qu'est-ce qu'on vous donne comme explication ? Pourquoi il n'y a plus de train aujourd'hui ?
Ah ben, c'est toujours l'argent, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les financements, mais on trouve des financements pour faire des routes, pour faire des autoroutes. On met 200 millions d'euros pour faire 10 km de voie autour du Puy-en-Velay. Enfin, de route, depuis Envelé, mais on trouve pas 50 millions d'euros pour réouvrir une ligne. C'est juste un choix politique. C'est pas l'argent existe, il est juste pas mis au bon endroit.
Et pourtant, il y a de la demande. Enfin, je veux dire, il y a des voyageurs, il y a des clients.
Ah ben bien sûr. Les projections qu'on peut faire sur une ligne que je connais bien, c'est-à-dire entre Tulle et Clermont-Ferrand, dans la partie qu'on braille entre Le Mont-d'Or et Clermont-Ferrand, on pourrait arriver à peu près à plus de 1000 voyageurs jour. Donc c'est pas anodin.
C'est pas anodin. Christian, je vous remercie. Christian Roy, je vous remercie d'avoir été avec nous, président du collectif Agir pour la ligne Clermont-Ferrand. On a Pascal qui nous appelle de Clermont aussi, qui est policier. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour à vous. Bonjour à toute l'équipe.
Qu'est-ce que vous en dites, vous, Pascal?
Ah bah, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de te dire. Vous voyez, je monte sur Paris, je prends ma voiture parce que je suis complètement fatigué en fait de cette ligne. C'est une véritable catastrophe. Donc, pour avoir discuté avec un contrôleur, en fait, le problème de la SNCF déjà, c'est que c'est une pyramide inversée. Il y a probablement plus de cadres dans les bureaux que de gens qui sont réellement sur le terrain. Et puis, en fait, j'ai un peu le sentiment, si vous voulez, que la SNCF, c'est un peu à l'image de notre État. Incapable de gérer le moindre problème. La France, c'était quand même le pays du Concorde, c'est quand même le pays de la technologie. C'est... Voilà,
et le pays du TGV, parce que ça, c'est cocorico, TGV, c'est une invention française, voilà. Le TGV.
Et voilà. Le pays de l'obésité administrative.
Ouais, c'est ce que
voilà, exactement. Et en fait, si vous voulez, on c'est a l'impression qu'on a des politiques en fait, qui ont tout cassé, qui ont cassé le système éducatif, qui ont tout cassé, un petit peu SNCF, c'est un peu pareil. Voilà. Et c'est une véritable catastrophe, cette ligne, vous voyez. La dernière fois, moi, j'ai eu un retard quasiment de 5 heures parce qu'on a tapé une harde de sanglier. On s'était arrêté à 10 minutes au nord de Nevers. Ils ont fait venir une équipe de Clermont-Ferrand en voiture pour constater qu'ils ne pouvaient pas réparer. Donc, il a fallu faire un appel à un soudeur qui s'est déplacé aussi, qui a constaté qu'il ne pouvait pas réparer sur place. Et il a des cours 5 heures de retard. Voilà.
Mais vous voyez, moi, c'est ce qui est terrible, c'est que là, on annonce de fortes chaleurs à la fin de la semaine, et donc on sait déjà que des trains sont en retard. Donc, on a beau dire
ça, ouais.
Chaque année que les vagues de chaleur vont se multiplier, il va falloir s'y habituer. C'est comme ça. Eh bien, la SNCF, finalement, attend que ça arrive pour constater qu'en fait, on n'est pas prêt. On n'a pas adapté non plus le réseau ferroviaire à ces fortes chaleurs. Comment font les pays chauds en fait, c'est le problème de l'anticipation. On n'a pas anticipé sur cette ligne, on n'a rien fait pendant les années, donc maintenant il faut mettre beaucoup d'argent pour réparer les dégâts, 168 millions d'euros, peut-être que ça aurait coûté moins cher si régulièrement on avait aménagé cette ligne et on n'avait pas abandonné les habitants
de Clermont. Mais Pascal, j'ai l'ancien député de la Creuse, là, Jean-Baptiste Moreau, qui m'envoie un message, parce que c'est un coin et une ligne qu'il connaît bien,
Il dit la ligne Paris-Limoges-Toulouse, 14 trains supprimés jeudi et vendredi. Pourquoi ? Parce qu'il fait trop chaud.
Voilà.
Et quand il fait trop froid, c'est pareil, on nous annonce la suppression des trains. Et puis il dit là, ils ne sont même pas capables de garantir que la clim marche. Et c'est, ça revient à ce que je disais. C'est-à-dire
qui comme... dirige la SNCF déjà ? Comment
Monsieur
il s'appelle ?
Monsieur Jean Castex. Monsieur Jean Castex.
Qui a été Premier ministre de qui ? De Emmanuel Macron. Oh.
Oui. Ben c'est pour ça que je faisais un petit peu le parallèle avec ce qui se passe au niveau politique. Voilà.
Mais bon. Merci Pascal d'avoir été des nôtres. On a posé
précision. Oui. À défaut de réparer les rames, j'ai entendu dire un contrôleur m'expliquer qu'en fait qu'ils allaient peindre le toit des rames en blanc pour éviter que ça se trop chaud à l'intérieur des rames. Voilà.
Quelle bonne idée.
Bah, c'est-à-dire que comme les rames datent des années 80, voire à peine 90, la climatisation, elle n'est pas complètement installée.
C'est le seul élément.
Allez, dans un instant, suite des GG, suite des grandes gueules, ce sera la troisième heure des GG. Restez avec nous en direct sur RMC et RMC Story.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.